What do you want?
Information.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I going to say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le deuxième numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio, une série décryptée, critiquée, acclamée ou aplatie en 20 minutes chrono par 4 critiques. Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi pour cet épisode 2, Émilie Semiramoth de Télé 7 jours. Bonjour Émilie.
Bonjour Pierre.
Cédric Melon de Télécapsat Hebdo. Hello Cédric.
Bonjour.
Et Renan Cros de Cinématiseur. Salut Renan.
Salut Pierre.
Et au menu, une nouveauté française, ou presque, Jour polaire qui a débuté lundi 28 novembre sur Canal+.
Kiruna, ça te dit quelque chose? Une sympathique petite bourgade au nord du cercle polaire. Une ville minière en fait.
Russie ou Finlande?
Suède.
Et?
J'ai reçu un appel d'un juge qui instruit le meurtre d'un Français là-bas. Il a été tué d'une façon assez dingue. Je sais que pour une fois que tu prends tes deux semaines de congé, il faut qu'on te foute la paix. J'en suis conscient, Kina. Mais on a tous les voyants en rouge sur ce coup-là. Un trou paumé au milieu de nulle part, la sauvagerie du crime. Non, franchement, je préférerais que ce soit toi. Pas la pression, là.
On appelle ça un nordique noir ou un scandinoir, autrement dit un polar venu du nord. Les Danois ont frappé en premier avec The Killing. On a depuis vu The Bridge, Norskov et une pelletée de thrillers où il flotte, où il vente, où il déprime, où on traque un serial killer inspiré, où, si possible, ça finit très très mal. Canal+, qui avait déjà fait sa version de The Bridge avec le tunnel, fait les choses pour de bon en décollant pour le nord de la Suède, près du cercle arctique, pour Jour polaire. Chers amis, la première mission de ce podcast consiste à présenter la série. De quoi ça cause? Qui veut bien s'y coller? Au hasard, allez, Renan.
Ok, super. Alors, de quoi ça parle? Comme tout polar, en fait, ça va être difficile à résumer, puisque sinon on va rentrer dans l'intrigue. On va résumer le premier principe. C'est un meurtre hyper sanglant avec une pale d'avion, d'hélicoptère. C'est un type qui est attaché à une pale d'hélicoptère. C'est Denis Lavant qui est attaché à une pale d'hélicoptère et qui se fait décapiter dans une petite ville donc du fin fond de la Suède, à Kiruna. Et en contrepoint, on découvre la vie d'une flic un peu paumée, un peu perdue, qui prend des vacances, la pauvre. Elle prend des vacances et manque de bol. On va aller la chercher. Elle va redébarquer en Suède parce qu'il s'agit d'un ressortissant français. Et à partir de là, elle va vivre donc ses jours polaires, c'est-à-dire qu'elle va vivre cette enquête, tandis qu'il n'y a plus de nuit et petit à petit, elle va être désorientée. Voilà, c'est à peu près ça.
Ça me paraît pas mal. Les deux scénaristes et réalisateurs de la série s'appellent Måns Marlin et Björnstein. Excusez mon accent suédois, il est assez limité. Ils ont travaillé sur The Bridge, justement, que je présentais avant. Il y a des points communs, quand même, donc on va les donner. Et est-ce qu'on peut comparer les deux séries? Alors, peut-être pas qualitativement, on va rester d'un point de vue du scénario dans un premier temps, Émilie.
La dynamique est la même, effectivement, parce qu'on est sur un duo homme-femme, binational, sur une enquête un petit peu retors, où il faut creuser, où il y a des effets de manche. Donc, effectivement, c'est un petit peu la même chose. Et en même temps, on est toujours dans une enquête qui va éviter le style Whodunit. Donc, on
va... Whodunit pour les non-anglophones,
qui l'a fait?
Qui a fait le coup? Qui est le criminel?
Donc voilà, en ça c'est à peu près similaire, c'est vraiment des calques qu'on pourrait poser les uns sur les autres.
Cédric, est-ce qu'on peut parler d'un exercice de style? Parce que dans le peu qu'on a expliqué d'histoire pour le moment, tout y est finalement, les meurtres glauques, l'héroïne mal dans ses pompes, le décor mystérieux, c'est du scandinoir, pour de bon.
Oh, je sais pas si c'est du scandinoir, c'est du nordique noir, dans le sens où... Moi, ce qui m'a le plus surpris, l'exercice de style, c'est, je sais pas comment ils ont fait pour rater autant les 10 premières minutes de la série. J'ai jamais vu un truc pareil.
T'aimes pas les hélicoptères?
C'est rédhibitoire, hein, les 10 premières minutes. Ah, mais, on a vraiment envie de se barrer.
Ah, mais les 10 premières minutes, c'est avec une fusée au cul qu'on a envie de se barrer.
C'est la fin de ce deuxième, non, je déconne.
Non, mais après, il faut s'accrocher.
Une fusée, peut-être pas. Faut peut-être pas se faire autant de mal, mais il y a un truc, Ah c'est costaud, quoi. Il faut s'enchaîner, là.
C'est mise en place. Bah, excusez-moi, mais The Bridge, les meurtres étaient quand même hyper glauques.
Oui, non, mais là, la façon dont meurt Denis Lavant,
c'est hyper con.
Déjà, physiquement, c'est pas possible. Et parce que
c'est trois premières minutes. Il est spécialiste des arrachages de tête par pales d'hélicoptère.
C'est pas possible. Il est attaché sur les pales d'hélicoptère. Il faut tourner. Donc, j'ai l'air quand même très, très con.
Oui, tu fais très, très bien l'hélicoptère qui tourne.
Et sa tête s'en va. Alors, on a envie de dire, ah bon?
Mais surtout qu'elle dure, la séquence.
Mais je vous jure que c'est vrai, c'est comme ça. Et ça dure longtemps.
Hein. On vous a spoilé le début, hein, mais c'est pas
grave. C'est deux minutes.
C'est pas grave.
Et après, pour présenter l'héroïne, pour dire qu'elle a eu un trauma, hyper difficile, lourd dans sa vie, elle marche dans les rues de Paris, elle erre, elle pleure. Et tout d'un coup, il y a un clou qui dépasse d'un parc-mètre. Je sais pas comment. Et elle approche sa main du parc-mètre, et la musique à suspense. Et elle se dit, est-ce que je vais mettre ma paume sur le clou ou pas? Et ça dure deux minutes.
Techniquement, la bonne réponse, ça serait non, quoi.
C'est mais pas... non, mais elle est là, elle fait, oh, ouais. Non, oh, non. Et elle le fait pas. Et
là, je trouve que t'es très expressif par rapport à elle.
Et là, je me dis, on se fout de ma gueule. Et les dix premières minutes, c'est vraiment très difficile. Bon, après, ça s'arrange un tout petit peu. Mais c'est compliqué.
Pourquoi faire cette série-là? Parce qu'on pourrait se demander. Non, mais.
Alors, on va poser la vraie question.
C'est que non, et on va quand même vous dire aussi qu'il y a des qualités dans cette série-là. Il n'y a pas que des défauts, quand même.
Une très belle prise de vue d'hélicoptère quand personne n'est attaché dessus.
Voilà.
J'ai l'impression qu'on avait retrouvé de Dieu le veut, tu sais, dans la chasse au trésor.
Sylvain Augier, moi, j'ai pensé. Bon, pourquoi Sylvain Augier?
Ils sont tellement en train de voyager au-dessus
en
hélicoptère.
On pourra plus les
arrêter, quoi.
Parce que Canal Plus fait des séries françaises, a priori. Alors pourquoi on va aller faire une série que les Suédois auraient pu faire tout seuls ou pas d'ailleurs?
C'est une idée de producteur au départ, d'après ce que j'ai compris. C'est l'idée de Patrick Nebout, je crois, chez Atlantic Productions, qui s'est dit « Ah tiens, Brown, ça marche bien. Ah tiens, Tunnel, ça marche bien. Et si on faisait la même chose chez nous et on fait un duo franco-suédois ?» Et voilà, on applique la recette qui marche. C'est une idée de producteur, c'est pas une idée originale d'un scénariste.
Mais ça montre bien que la série télévisée aujourd'hui, elle s'est un peu figée dans des genres. C'est-à-dire qu'on avait, dans les années 90, la révolution de la série télévisée qui décloisonnait tout. Et aujourd'hui, en train de recloisonner tout dans des genres extrêmement précis. On décalque les mêmes séries, ce qui fait qu'on s'ennuie. En fait, on l'a déjà vu, Jour polaire. Leïla Bekti qui joue dedans est très sympathique, mais je l'ai déjà vu.
Mais en plus, le traitement qu'il réserve à la série est tiède. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... on a envie qu'elle se plante complètement son clou dedans. On a envie qu'à un moment donné, que ça décolle.
La tête s'arrache quand même. Mais, qu'est-ce que tu voulais de plus? Que les bras partent aussi?
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on a envie qu'il y ait un peu de comment dirais-je, de chaleur, de puissance, de suspense.
Ah bah c'est sur le cercle polaire, donc la chaleur, c'est mal barré.
Quand je veux dire de chaleur, on a envie d'avoir de l'empathie pour le personnage, on n'en a jamais. Elle est sans arrêt en train de pleurer à notre place, nous on pleure parce qu'on a envie d'arrêter.
On va y venir à tous ces critiques-là, mais est-ce que le fait que ce soit une série Canal+, alors c'est une coproduction avec la SVT, chaîne suédoise, est-ce que quand même ça nous apporte un petit quelque plus, une petite différence avec une pure série nordique suédoise ou danoise?
Bah, la différence, c'est que c'est aseptisé. C'est-à-dire que ce qu'ils osaient dans The Killing, ce qu'ils osaient dans Brown, on l'ose plus là. C'est les personnages, pour moi, sont aseptisés. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout ce qui faisait l'âme et le corps de ces séries qu'on aime beaucoup et qui viennent du Nord.
I'm Rutger Berlin. I'm the chief prosecutor and I'm leading the preliminary inquiry.
Qu'est-ce que c'est?
Enchanté.
Vous parlez français?
Non.
I thought it would be a good idea if we went straight to the crime scene, so you can see it with your own eyes.
Is that the mine?
Been here for over 100 years. The locals call it Mommy, as in Mother.
You work there when you leave school, you earn a hell of a lot of money in hazard pay, then you retire. You're from Paris, right?
Yes.
You know that little tower you have there?
Yeah, the Eiffel Tower.
Every day, iron ore, enough to build 6 Eiffel Towers, comes out of this mine. Every day.
Alors, c'est dans le titre, Jour polaire, il ne fait pas nuit, on l'a déjà dit, ça c'est quand même l'originalité de la série. Ils l'ont mis dans le titre, donc quand même, on peut pas ne pas en parler. Les polars nordiques, normalement, il fait hyper sombre, c'est la nuit, il flotte. Là, quand même, ils prennent à contre-pied esthétiquement, et c'est aussi un élément de l'histoire, ce cadre typique du Scandinoir qui est justement une obscurité. Là, on est dans le jour complet.
Oui, mais ça fait pas un sujet, en fait. C'est le problème. C'est-à-dire que c'est un gadget, c'est plutôt très joli et ça marche. C'est ce qui fait qu'on est à peu près accroché au début. C'est l'effet d'épuisement, le paysage. En gros, on pourrait virer les acteurs. C'est presque une série paysage. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à nous montrer et à bien nous montrer. Moi, le début de la série m'a vraiment consterné. Vous avez un plan sur des rochers, vous avez un plan sur des montagnes enneigées, des lacs, et on vous écrit Kiruna, en gros, au cas où vous auriez pas compris. Tout d'un coup, il y a le métro, c'est gris, c'est moche, c'est écrit Paris. Comme si je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une différence. Le problème, c'est que la série, elle est extrêmement didactique pour ça. Et ce principe de jour polaire, je crois qu'elle passe son temps à le dire. Elle passe son temps à dire, oh là là, il ne fait pas nuit. Le problème de cette série-là, c'est que les personnages passent leur temps à dire des choses que nous, on a déjà compris. Un, parce que le genre, on le connaît déjà. Donc tout ce qu'elle va révéler, tout ce qu'elle va raconter, finalement, nous, on l'a déjà compris parce qu'on a vu les autres séries. Mais aussi, une espèce de banalité, quelque part, du sujet qui sont en train de gonfler avec les personnages qui redisent le sujet de la série, c'est-à-dire effectivement, il ne fait pas nuit.
Cédric.
Et malheureusement pour eux, ils passent après l'excellent film de Nolan qui s'appelle Insomnia.
Avec qui est un remake d'un film norvégien.
Exactement. Et là, pour le coup, ils avaient réussi leur coup.
Et pour la petite histoire, le réalisateur du film norvégien, c'est le réalisateur de Occupied sur Arte. Voilà, la boucle est bouclée.
Ouais.
Qui a travaillé avec Arte. Voilà. Ouais. Eric Schulzberg.
Mais en même temps, ils avaient Al Pacino dans Insomnia. Donc déjà, là, ça faisait une grosse différence.
Et on va en parler des comédiens.
Et surtout, sur l'aspect sur lequel ils jouaient dans le film, donc qui n'a rien à voir, mais c'était sur la fatigue constante, sur l'insomnie du personnage. Il y a même des scènes qui sont reprises, vraiment scènes identiques sur le moment où elle essaie de calfeutrer les fenêtres, etc.
Mais ça, c'est un des éléments clés quand même. Série est censée, à un moment, nous égarer comme son personnage s'égare.
Mais c'est pas habité, ça marche pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas.
Émilie.
Oui, je suis un peu moins d'accord pour contredire un tout petit peu aussi. Je pense que c'est une ambiance qui fait partie quand même du cœur de la série quand même, de fonctionner sur cette désorientation, sur cette perte de repères. La lumière, contrairement aux Scandinoirs où il fait tout gris, tout noir tout le temps, justement est censée devrait normalement révéler les choses, mettre les choses en lumière justement. Or c'est pas du tout le cas et ça perd encore plus les personnages principaux, ça perd encore plus le personnage de Kaina qui, même si elle est en pleine lumière, même si tout est jamais caché, perd une notion de temps, perd une notion d'espace et perd une notion de je sais pas comment le dire.
Renan.
Oui, mais ça marche, je crois, à l'échelle d'un film. Ça marche pas à l'échelle de la série. C'est-à-dire que la désorientation. Mais la désorientation qu'on est censé avoir avec elle, finalement, comme on est coupé, nous, dans notre rythme, parce que c'est une diffusion de série, bah, finalement, il faut se replonger dans l'idée qu'elle est désorientée, que le temps ne passe pas de la même manière. Donc, ça ne peut pas marcher. En tout cas, ça n'a pas d'effet sur moi, par exemple.
Alors, logiquement, si la série fonctionne auprès des téléspectateurs, ça doit s'enchaîner avec un autre élément clé de cette histoire. C'est son cadre. C'est la communauté Sami, qu'on appelle vulgairement les Lapons, nous ici, et qui est une communauté très mystique. Enfin, en tout cas, il y a tout un côté mystique dans la série, et la désorientation dont on parle, le fait que Kaina, le personnage principal joué par Leila Bekhti, va perdre ses repères, va finalement embrasser cette espèce de voyage initiatique qui est le sien. Est-ce que au moins ça, on peut admettre qu'il y a quelque chose d'original dans ce cadre, dans cette communauté dont on sait très peu de choses?
Tu veux dire que un voyage serait un voyage initiatique? C'est extraordinairement nouveau comme
mais
idée.
Mais c'est incroyable.
Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que, effectivement, oui, son voyage est un voyage initiatique. Et finalement, ce qu'elle va chercher, le boudonite en question, finalement, c'est plus elle qui va se révéler et se questionner. On l'a déjà vu des dizaines de fois.
En fait, le vrai mystère de la série, c'est qui est-elle, que veut-elle, d'où vient-elle et où va-t-elle? Et à la fin, on n'aura pas la réponse.
Le cadre de Kiruna et de la communauté Sami est-il, oui ou non, chers amis, au moins intéressant?
Non. C'est rendez-vous en terre inconnue, quoi, en fait, c'est ça.
C'est un élément exotique.
Il y a d'ailleurs Frédéric Lopez qui fait un caméo.
On s'attend à l'arrivée de Frédéric Lopez. Je lui dis, as-tu bien dormi, en fait?
Ouh là là, c'est terrible.
Non, il faut souligner quelque chose de positif, à mon sens, dans la série, c'est que je pense que les acteurs jouent bien, ils font ce qu'ils peuvent. Et Dieu sait que c'est difficile avec ce qu'on leur a donné.
Mais alors, on va en parler, justement, un peu après des acteurs, mais il y a un dernier point avec cette histoire de communauté Sami. Mais j'y tiens, parce que c'est quand même le sous-texte clé de la série. Donc, si on le balaye et qu'on dit qu'il vaut rien, c'est terrible pour la série elle-même. C'est que Kaina, on va pas spoiler grand-chose, est berbère, a fui son pays pour des raisons qu'on gardera secrètes, l'Algérie, et donc vit en France, donc elle est déracinée quelque part, elle est face aux Samis qui eux sont contraints finalement presque d'abandonner leur terre, et dans une ville, pour le petit côté moi que je trouve assez fascinant, cette ville Kiruna, pour de bon existe en Suède et vraiment va être déplacée, c'est-à-dire que la mine va être agrandie, la ville va être détruite et reconstruite plus loin, ce qui est quand même assez incroyable à penser, et donc il y a quand même une thématique sur comment je fais face à mon identité, à mes racines, et comment je les vis. Émilie.
Il y a une petite critique sociétale, oui, quand même, qui ressort de la série. Le peuple sami, c'est un peuple autochtone, donc qui était là, présent, bien avant l'arrivée des Scandinaves, et qui subit un petit peu le même traitement que les Amérindiens aux États-Unis ou que les Aborigènes en Australie. Ils sont conspués, rejetés, méprisés, voire insultés ou agressés.
Il y a des actes racistes, hein, qu'on voit dans la série.
Exactement, ils subissent un racisme qui est vraiment décomplexé. Ça résonne, évidemment, chez le personnage de Kaina, parce qu'elle est française d'origine algérienne, donc bon, elle a aussi une expérience quand même du racisme. Et en ça, c'est assez intéressant. Et le déplacement de la ville, effectivement, agit comme une allégorie où voilà, les failles de la société suédoise sont tellement profondes que la ville est en train de s'effondrer, littéralement. Elle menace d'être engloutie dans le sol. Et du coup, il faut la déplacer. Il faut déplacer le problème.
Renan ?
Ouais, mais... Enfin, je suis désolé, mais encore une fois, la métaphore, elle est quand même lourde, elle est quand même littérale. Il y a des failles qui apparaissent, c'est les failles de la société, c'est les failles des personnages. Ça manque quand même tout ça d'un tout petit peu de nuance et de légèreté. Mais même quand tu le racontes, je trouve rien qu'en le racontant, on se rend compte d'une espèce de poids qui tombe sur les personnages, le poids sur la série. Et tout ça manque, en fait, je crois, un tout petit peu de nuance. C'est-à-dire que tout est, comme ça, affirmé en permanence, répété à longueur et à longueur d'épisodes pour nous amener à bien comprendre que tout ça va très très mal et que c'est un univers extrêmement dépressif. Et effectivement, la critique sociale, elle pourrait être très intéressante, mais elle me semble toujours être ramenée à des considérations tellement simplistes, en fait, des personnages que ça marche. En tout cas, moi, ça ne touche pas du tout.
Et c'est d'autant plus possible que, pour moi, en fait, Jour polaire rate complètement ce que Top of the Lake a réussi. C'est-à-dire avec, justement, des messages qui sont similaires, avec une lenteur, une mise en place qui est similaire, avec des personnages qui se ressemblent un petit peu dans les enjeux, et faisait exactement ça, mais de façon complètement réussie, parce qu'il y avait de la nuance, il y avait de la finesse, et tout n'était pas surligné, souligné, sans arrêt.
Émilie.
Mais tu remarqueras que c'est un truc qui est quand même assez récurrent dans les Nordiques noirs. C'était vrai aussi avec Braun, où t'as toujours un fond sociétal qui est ressorti comme un gadget et qui finalement il n'est jamais exploité à fond.
Sauf dans The Killing quand même, qui est politiquement assez intéressante. Enfin, mais on est moins dans la question de société que dans la mise en scène du monde politique, qui est parfois, en tout cas dans la version, je parle de la version danoise évidemment, qui est plutôt réussi.
Il est 1h du mat là. Vous voyez la lumière? Je sais pas comment les gens arrivent à dormir ici. Hein.
Ils dorment tout l'hiver, ça doit leur suffire.
Peut-être, ouais.
T'as reçu les dossiers?
Attends. Ah ouais, avec la photo? Ouais. Je vais l'envoyer au procureur.
Ça vient du service des passeports, à part ça, aucune trace du bonhomme.
Mais c'est pas possible, il a bien dû exister quelque part.
T'en fais pas, on cherche.
Ok. Bon, faut vraiment que je dorme, là. Bonne nuit.
On va quand même parler d'une chose qu'on n'a pas soulevée jusqu'ici, parce qu'on a essayé de parler du fond, on a essayé de parler de la forme, on n'a pas parlé, c'est un thriller, enfin voilà, il y a des meurtres, tout ça. Alors là, il va falloir marcher sur la ligne jaune et ne pas dire qui, comment, ni quoi a commis ces crimes, mais est-ce que au moins la tension du thriller, la tension dramatique, la tension policière, oserais-je dire, est réussie dans Jour polaire?
Pour faire court, on va dire qu'ils font le job, sans plus ni moins.
C'est ça, ils font le job. Bah, ils font ce qu'on attend d'eux, mais en même temps... Enfin, encore une fois, je trouve que la structure de la série, on a quand même très vite compris que tout ça, c'est ce qu'on appelle un MacGuffin, c'est-à-dire que les meurtres sont une manière de rentrer dans l'histoire, mais finalement, c'est pas ça vraiment qui nous intéresse, c'est plutôt elle. Donc, une fois qu'on l'a compris, puisqu'on a vu toutes les séries qui précèdent, bah, on attend juste que finalement, elle se révèle et que son parcours à elle est plus intéressant. Et déjà, il l'est pas beaucoup par rapport à l'histoire des meurtres.
Parce que justement, moi qui suis quand même un peu moins sévère que vous sur la série, en même temps, les intentions sont bonnes et parfois, j'ai tendance à être bienveillant avec les séries qui ont de bonnes intentions. Mais par contre, le côté thriller et le côté qui a tué, ni comment, machin et tout, je m'en suis contrefoutu extrêmement vite j'ai pas été accroché par ça.
Pierre, heureusement que les intentions sont bonnes. Je vois pas un auteur de série ou un producteur dire tiens, comment je vais faire pour faire de la merde.
Ah bon ? Ah bah j'en vois souvent, moi.
Oui, non, mais ils s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils le disent pas formellement. C'est-à-dire que bien sûr que les intentions sont bonnes, ils ont envie de bien faire. Sauf qu'à un moment donné, il leur manque des clés et à force de vouloir sans arrêt surligner et souligner les choses et de prendre quelque part les téléspectateurs pour des gens qui réfléchissent pas. Eh ben, il se passe rien, quoi.
Bon, alors, gardons un petit peu de bonne humeur et de choses positives pour la fin de cette émission. Les acteurs. Ah, ils sont pas mal, quand même, les acteurs, merde. Non?
Oui.
Ou le silence.
Non, alors, on va essayer d'être un peu positif. Moi, il y a une idée que je trouve, mais en fait, qui est propre au genre, c'est la représentation du féminin et du masculin, la manière dont la série brouille un tout petit peu les codes et dont Leila Bekti, finalement, est à la fois une actrice, c'est vraiment une bonne actrice, en plus, une actrice à la fois extrêmement féminine, et la série joue comme ça sur une espèce de dureté petit à petit qu'elle a, et vraiment, il y a un truc assez réussi sur le duo qu'elle forme et l'inversion des genres. Ça, c'est plutôt intéressant, déjà vu vu des dizaines de fois, mais plutôt réussi. Après, le problème de Lady Benedicti, c'est qu'on lui a dit, ma chérie, tu vas être très très fatiguée, tu vas vraiment faire la gueule. Donc elle fait la gueule et elle est très très fatiguée pendant toute la série. Donc elle a une palette d'émotions qui est quand même extrêmement limitée. Mais ne serait-ce que les sons qu'on entend, on voit bien qu'il y a une espèce de ton comme ça un peu annonné où elle parle en permanence. Je crois que c'est vraiment la série est un peu un défi au sommeil. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un peu envie de sombrer avec elle.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que l'inversion des stéréotypes féminins masculins sont assez bien exploités. Bon, c'est encore un classique aussi du nordique noir. Hein. On l'a déjà vu mille fois, mais
dans The Killing, par exemple.
Dans The Killing aussi. Et pour ce qui est de Leila Bekti, moi, franchement, je la trouve vraiment bien. Je trouve qu'elle est vraiment très physique dans ce rôle. Il y a une vraie charge physique de sa part, contrairement à Braun, où on se déplace, on va poser des questions, on va dans la voiture et puis basta, ça va pas plus loin. Elle donne de sa personne. Ils prennent l'hélicoptère.
Ça, c'est très important.
Il faut quand même dire que le pilote de l'hélicoptère s'appelle Thor. Et voilà. Ça, c'est la classe quand même. Ça, c'est la classe pilote d'hélicoptère Thor. Franchement, il fallait le faire. J'aime beaucoup cet acteur suédois que je croyais n'avoir jamais vu. Sauf qu'il jouait dans Bruno. C'était le copain de... Vous n'en étiez pas rendu compte.
Non.
C'était le copain de Sacha Baron Cohen.
Changement d'univers, là, quand même.
Oui, absolument. Donc, il s'appelle Gustav Hammarsten, on va donner son nom. Et que je trouve assez intéressant parce que c'est un bonhomme qui a une espèce de comique naturel et qui, finalement, joue un personnage qui n'est pas si rigolo que ça, quoi. Qui est un gars qui est assez tourmenté.
Bah, personne n'est rigolo dans la série.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros rigolo.
Il se marre pas beaucoup. Mais rigolo, moi, je le trouve pas. Je le trouve intéressant par rapport au duo. Mais encore une fois, c'est ce que qu'a dit Émilie. C'est un classique. C'est-à-dire le tandem et la manière dont ils travaillent tous les deux ensemble. Après, il y a une apparition dans les premiers épisodes de Peter Stomare qui en fait trop. Il y a un truc pas possible.
Il en fait toujours trop, Peter Stomare.
Ouais, mais c'est pas possible. Elle en fait pas assez et lui, il en fait trop. Donc il y a un moment, c'est un peu gênant.
Le truc, c'est que lui aussi n'existerait pas sans elle. C'est-à-dire que tu pourrais pas construire une série sur son personnage à lui. Vraiment. Il est vraiment trop fantomesque.
Une dernière question, coproduction internationale, la France et la Suède, c'est une direction que certaines chaînes, à commencer par Canal, prennent de plus en plus. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour vous? Alors c'est un sujet de débat, on pourrait faire une heure dessus, mais au vu de Jour polaire et puis de quelques autres, il y a eu Versailles récemment, il y en a d'autres. Est-ce que ça sert à quelque chose ces coproductions internationales, à vendre des, parce que je crois savoir que Jour polaire se vend pas mal, c'est le genre de série qui se vend bien international.
Les résultats sont inégaux. C'est-à-dire que quand on voit Versailles, on pleure. Quand on voit Young Pope, c'est vachement bien. Et là, on se dit, heureusement qu'ils ont fait une coproduction internationale, sinon on n'aurait jamais eu cette tête-là. Quand on voit ça, on est totalement mitigé. Je vous laisse voir Guyane, parce que alors là, c'est encore un autre truc.
On en reparlera beaucoup plus tard.
Mon Dieu. Mais c'est toujours la même chose. Si le projet est bon, si les intentions sont bonnes, si le résultat est là, oui, c'est une très très bonne chose. Parce que plus on mettra de moyens pour faire des choses bien, ça sera bien. Mais quand on voit autant de moyens mis au service de ça, c'est compliqué.
Il y a un petit côté quand même Nations Unies de la série télévisée, moi, qui me pose un problème. C'est-à-dire que tout est un peu dans le compromis. C'est-à-dire qu'on est en train, comme ça, de mettre un petit bout de série pour plaire à tel pays, un petit bout de série pour plaire à tel autre, et on essaie de créer une sorte de forme globale, universelle, qui, à mon avis, va finir par s'essouffler. C'est-à-dire
dans le 4 jours pour l'air, quand même, il y a une justification scénaristique. Ou plutôt, c'est le scénariste c'est le scénario qui justifie la coproduction internationale.
Ou l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une coproduction internationale qui est justifiée par le scénario.
C'est ça, ce que je voulais dire.
Ils voulaient vendre des hélicoptères en Europe.
Aussi. Il y a un petit côté comme ça où on a l'impression, et alors après, évidemment que la série télévisée est un produit aujourd'hui qu'on vend aux chaînes, mais là, on a l'impression de voir le produit, on a l'impression de voir les cases, on a l'impression de voir la manière dont la série, finalement, elle correspond totalement au cahier des charges qu'on lui a imposé. Ce qui, en soi, n'est pas forcément désagréable, mais qui, là, effectivement, est un petit peu trop visible et perd un peu d'intérêt, en tout cas pour moi.
Émilie ?
Le truc, c'est qu'à chaque fois, tu ressens vraiment l'intention qui est de ne pas froisser les sensibilités des autres. Il ne faudrait vraiment pas heurter, critiquer trop vivement la société suédoise, en l'occurrence, ou dans Tunnel.
Le passé français.
Voilà, exactement. Et on y va vraiment avec des pincettes. Du coup, c'est le scénario qui empathie.
Mais quand ils font Young Pop, ils laissent faire. Et le résultat, il est là. C'est vachement bien.
Parce qu'il y a un réalisateur très connu derrière qui a une figure qui fait ça, qui permet ça.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'il faut aller vers ça, quoi.
Le truc, c'est que Marlene et Stein, ils sont pas mauvais, mais c'est des faiseurs, c'est pas tellement des artistes. C'est ça aussi le truc.
C'était encore plus dur que nous.
Et c'est là-dessus qu'on finira cet épisode 2 du podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries. Un épisode et j'arrête en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle, la diffusion de Jour Polaire, c'est le lundi soir sur Canal+. Merci à Renan Cros de Cinématiseur, à Émilie Semiramode de Télé 7 jours et à Cédric Melon de Télécapsat Hebdo. Merci aussi à Binge Audio, à Joël Ronez et à Jules Cros aux manettes. Merci aussi, j'ai pas fini, à l'antenne qui nous accueille aujourd'hui et au public qui s'est déplacé pour nous écouter. Merci à vous. La semaine prochaine, on revient sur une des séries les plus honnies ou les plus aimées du moment, The Walking Dead, dont la saison 7 divise méchamment, c'est un euphémisme. D'ici là, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag UEJ, comme un épisode et j'arrête. Suivez la CS sur Twitter et Facebook. Et n'hésitez pas à jeter une oreille sur les autres podcasts de Binge Audio. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.